I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Parce que les lire, c'est le fun, mais les entendre, c'est encore mieux, on a réuni les 5 nommés de la catégorie médias pour une table ronde sur les médias.
Mon titre officiel, c'est reporter à l'actualité.
Noémie, merci.
Collaboratrice à Radio-Canada, à la radio. Puis, quand on me demande ce que je fais, ben, je dis que je suis journaliste.
Olivier Agabi.
Directeur de création chez Québécois, un contenu création. Finalement, moi, je dis que je travaille un peu pour TV.
Conceptrice, animatrice, productrice de Tammy USC sur Évasion.
Tammy et Emma Pepin.
Puis là, ben, comme j'ai aussi de lancer mon entreprise, je vais devoir m'habituer à présidente, productrice, exécutive de ma boîte.
Xavier Cranstrom-Richard.
Je suis payé pour être éditeur réseaux sociaux, puis je dis souvent que j'ai créé un lab à côté, plus en créneau, l'innovation médiatique, numérique et technologique.
Elisabeth Plank.
D'habitude, je dis juste que je travaille dans les médias. Je sais que c'est moins compliqué.
Au menu, la crise, le messie, les codes d'écoute, le féminisme et l'angoisse de l'omniprésent.
Cette discussion est animée par Stéphane Baillargeon, journaliste au Devoir.
Les Rencontres extraordinaires, une série de 5 épisodes créée par Urbania en collaboration avec Le Devoir. Autour de la table, un créateur qui travaille pour une grosse corporation télé, une journaliste pour un magazine papier et 3 joueurs influents des nouveaux médias. À quel point ça sème, ce monde-là?
Est-ce qu'il faut opposer ça comme ça? Est-ce qu'il y a une querelle entre les anciens et les nouveaux
médias? J'espère qu'il n'y a pas de querelle.
Ou qu'il y a un continuum et que les choses se transforment. Mais les anciens deviennent des nouveaux. Il faut le voir comme ça.
Noémie Mercier, journaliste de l'actualité.
Pour ma part, ce qui est traditionnel, c'est le média pour lequel je travaille, là, qui célèbre ses 40 ans cette année, qui est à la base un magazine fait en papier, qui est encore imprimé et vendu en kiosque ou par abonnement. Mais on est tous... Puis la partie dinosaure, c'est que, je veux dire, moi, mon métier, c'est ça, c'est d'être journaliste, puis d'aller sur le terrain avec mon calepin puis mon enregistreuse, puis après ça, je rentre chez nous, puis j'écris des articles. Donc, ça, c'est la partie dinosaure. Mais sinon, tu sais, on est tous touchés par ces mutations-là puis ces transformations-là. Donc, si on était en querelle, je pense qu'on serait vraiment dans le pétrin, là, parce qu'on a besoin d'échanger. Je pense que l'expertise que moi, j'ai ou que les dinosaures ont demeure pertinente et on doit la partager, puisque d'autres peuvent apporter comme innovation, comme d'autres façons de voir, on en a absolument besoin aussi.
Toi, tu fais quand même la même chose, tu vas sur le terrain, tu fais du travail journalistique. Pourtant, si tu n'es pas décrit comme journaliste, tu ne travailles pas pour une vieille entreprise non plus. Tu travailles pour un pure player, en quelque sorte.
Ouais. Elisabeth Plank, productrice et correspondante chez Vox, basée à New York.
Puis en même temps, c'est ça, moi, je vois comme mon rôle a changé beaucoup au cours des 3 dernières années. Au début, j'écrivais que des articles. Après ça, la vidéo, c'est devenu sur Facebook maintenant, puisque c'est 80% de notre trafic vient, nos utilisateurs viennent de Facebook. Il faut qu'on s'adapte aussi à ce public-là. Donc là, c'est la vidéo presque qui prend tout mon temps. Mais moi, je vois en fait beaucoup de tensions entre les médias traditionnels. Les nouveaux médias. Je suis allée à une conférence qui s'appelle NewsGuys, en fait, qui prend place, une conférence organisée par Google une fois par année. Et puis, il y a des conversations, des discussions sur tout plein de sujets. Et la table ronde la plus... Où les gens étaient vraiment frustrés, où vraiment il y avait quasiment des insultes qui se faisaient lancer, là. C'était platforms, tu sais, les plateformes, genre Facebook, Twitter, tu sais, la distribution du contenu. Tu voyais les médias plus traditionnels, NPR, BBC, qui voient, dans le fond, les nouveaux médias comme étant un espèce de danger ou un ou une manière de faire les choses qui est peut-être trop facile, qui est pas perçue comme étant aussi prestigieuse et qui au lieu d'aider à innover dans le monde du journalisme, dans les médias, c'est vu comme étant
Des pilleurs de contenu souvent, c'est aussi ça. C'est ça, des c'est pirates ça.
En exactement sorte. Donc encore je pense une hiérarchie, nous on est vu comme étant plus bas, mais en même temps, ils veulent savoir c'est quoi nos secrets pour... Donc, je pense qu'il y a une tension.
Camille Emma Pepin, animatrice et présidente d'Un peu plus loin.
Moi, j'en vois pas de tension, plus aujourd'hui, peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, je pense que, tu sais, de dire que le mot de même dinosaure, d'associer les journalistes plus traditionnels à des dinosaures, j'aime ça dire ça, tu sais, c'est... Il en faut, tu sais, je veux dire, il en faut des journalistes qui font du contenu de façon indépendante. Ça fait pas deux des dinosaures, ça fait deux des gens qui ont une indépendance journalistique. T'sais, moi, le terme journaliste, souvent, on va me le donner. Ah, t'as mis ma pépé journaliste. J'aime ça parce que moi, je fais du contenu pour des marques parfois, pour des diffuseurs. Oui, parfois, il y a des reportages dans mon contenu, mais quand on dit ah ouais, elle, c'est une journaliste, tout de suite, je le corrige. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre. Moi, je suis pas à l'aise avec ce terme-là quand on me dit journaliste, même si j'ai étudié là-dedans, même si, oui, j'ai travaillé au Huffington Post, au Journal de Montréal, mais moi, ce titre-là, je me sens pas à l'aise de le porter. Fait que moi, je vais vraiment avec créatrice de contenu, productrice de contenu.
Parce que tu t'associes avec des marques, c'est pour ça
que... parce que j'ai pas l'impression que je suis une journaliste, parce que des fois, je vais travailler en publicité. Tu sais, je veux dire, il y a des lignes qu'un journaliste ne peut pas croiser, que moi, je croise régulièrement en tant que créatrice de contenu. En plus, parce que là, moi, mon objectif, c'est de créer du contenu pour des marques, parce que c'est ce que les marques demandent. Ils font plus juste la publicité. Ils vont devenir des producteurs d'émissions, de podcasts, de contenu natif dans les grands journaux. Fait que moi, je suis pas à l'aise avec ce titre-là. Mais en même temps, je vois cette tension-là, je pense que je la sentais peut-être il y a quelques années quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, ah, c'est qui cette bébête-là? Puis genre, elle se prend pour qui? Elle est une journaliste, elle fait des vidéos sur Facebook. Mais bon, mais aujourd'hui, tu vois des entreprises. D'ailleurs, je ne sais pas si l'actualité a embarqué dans le Facebook Instant Articles. Là. Je sais qu'il y a quelques médias qui se lancent là-dedans pour vraiment créer du contenu directement dans la plateforme de diffusion de Facebook plutôt que sur leur site web. Fait que je pense que les médias traditionnels savent que la survie de leurs médias passe par la diffusion, pas seulement sur leur site puis sur leur plateforme, mais sur les plateformes où se trouvent les gens.
D'accord. Alors que vous deux, vous êtes dans les vieilles entreprises qui ont déjà commencé à muter et qui font des efforts là, pour y arriver. Commençons par toi, peux-tu nous donner des exemples de ce que tu fais dans ton vieux média, ta vieille télévision, qui correspond là, à l'ère du temps et au nouveau...
Oui, moi, je vous entends parler de dinosaures, puis nous autres, on est plus dans... Nous autres, nos références, c'est plus le Titanic, tu sais.
Olivier Agabi, directeur création chez Québécois Contenu Création.
Plus de dire, OK, on est dessus, là, tu sais, il y a du monde qui réalise, qui coule, fait que ça, ils partent, puis il y en a d'autres qui font, on est correct. On est correct. Il y a encore beaucoup de monde sur le bateau, fait qu'on est correct, t'sais. Fait qu'effectivement, tu sais, la réflexion qu'on a, nous, beaucoup, c'est... On doit créer des émissions, des formats. Vraiment, l'objectif de cette boîte-là, c'est de créer des formats télé qu'on va pouvoir créer ici, avoir un succès sur la scène locale, utiliser les plateformes traditionnelles pour générer un proof of concept qu'on appelle, c'est-à-dire ça peut fonctionner, puis de vendre ça à l'étranger, dans d'autres pays qui ont des plateformes traditionnelles encore, qui essaient de tenir à flot. T'sais. Ça, c'est le modèle dans lequel on est en ce moment, puis qui change, qui est en mutation complète, parce que... les mutants sont tous rentrés dedans et ont complètement changé la donne. T'sais. Mais il y a encore beaucoup d'argent. Là, il y a encore un modèle d'affaires qui se tient pour une corporation à vouloir essayer de créer du contenu dans un cadre traditionnel. J'ai encore des brainstorms. Disaient, puis là, la personne disait « Ah, mais là, au retour de la pause, on pourrait faire... » Tu sais, shit, we won't hear anymore. Je peux pas croire que je suis dans un brainstorm et on dit « Qu'est-ce qu'on fait au retour de la pause? »
Concrètement, parce que les gens regardent la télé comme ils veulent, en zappant, à l'heure où ils veulent, c'est ça, sur la plateforme où ils
désirent. Ben c'est que la télé devient, tu sais, puis je sais pas si là je diverge, mais tu sais, c'est le concept même de dire, ben, je vais écouter ce contenu-là à cette heure-là, parce qu'il y a un diffuseur qui a décidé de produire ce contenu-là et de le programmer. Tu sais, la notion de programmation d'une grille en fonction des habitudes d'écoute des gens basées sur des chiffres qui sont... C'est une habitude qui est en train de mourir. Mm-hmm. C'est tout ce contexte-là dans lequel nous, on se trouve,
qui est fascinant. Sauf que l'habitude est encore majoritaire, non? Ouais. Même si ça change.
Mais mettons, moi, quand j'ai commencé en télé, il y a 8 ans, là, quand tu faisais des parts de marché, les gros shows faisaient des parts de marché, mettons, de 35 %. Là, maintenant, il y a juste la voix, les gros formats internationaux qui peuvent se... penser de pouvoir aller générer autant de parts de marché. Les parts de marché, tu sais, c'est frites à vue d'œil. Avant, les parts de marché étaient remplacées par les chaînes spécialisées qui, après ça, tu sais, venaient balancer. Mais après ça, tu sais, toute la consommation de télé est en chute. Donc, tu peux plus pallier avec des chaînes spécialisées. Fait qu'il est là la réflexion, j'imagine, ben pas j'imagine, elle est là, tu sais, dans les médias traditionnels, à dire, OK, t'sais, la télé est encore le média de masse par excellence. Effectivement, si tu veux rejoindre des gens, tu pêches la dynamite là, quand tu t'as la télé. Mais il faut que les corporations trouvent un moyen d'aller chercher les gens qui ont délaissé l'écoute télévisuelle. Puis là, ça leur demande, tu sais, puis moi je le vis à l'intérieur d'une corporation, ça leur demande une agilité. C'est intrinsèque à l'ADN de l'entreprise d'être agile, de pouvoir réagir rapidement puis de pouvoir faire rapidement du contenu avec moins de ressources. Pour une grande corporation, c'est plus difficile de pouvoir penser à générer du contenu rapidement, sans lourdeur, puis pouvoir atteindre les gens en contenu court.
Bonne entrée en scène pour Radio. Mais tu mets la table pour Radio-Canada. Alors, est-ce que c'est facile de faire bouger un paquebot titanesque comme Radio-Canada? Xavier
Cromstrom-Richard, fondateur du Radio-Canada Lab.
Sur la différence ancien-moderne, c'est sûr que... Moi, je suis rentré à Radio-Canada. J'ai été le premier gestionnaire de communauté à Radio-Canada. T'sais, avec le poste, ça, c'est dans mes tâches. Je fais ça à 100%. Mm. Puis à l'époque, on structurait plein de politiques internes pour encadrer l'affaire. On a créé plein de documents, on les envoyait partout, on faisait des formations. Et encore dans les formations comme telles, on avait beaucoup de feedback négatif des journalistes qui disaient ben à quoi ça sert, c'est de la niche. C'est toutes les réflexions. Puis 5 ans après, on a tout supprimé cette documentation-là parce qu'elle est désuète. Tout l'effort d'encadrer, de réglementer les réseaux sociaux avec le fait que la contamination puis l'univers journalistique lui-même était déjà rendu là en 2010, mais encore plus en 2015, a fait en sorte que, à la fois culturellement, on a bougé, comme Radio-Canada a bougé, s'est inspiré des nouvelles pratiques dans l'univers des réseaux sociaux, mais ça a pris 5 ans.
Ce qui m'a frappé aussi en recevant les pré-entrevues, c'est de voir que vous êtes actif partout, en fait, sur plusieurs plateformes. Et il n'y a pas de contradiction donc entre des vieilles formes et des nouvelles. Tout ce qu'il faut, c'est trouver la forme adaptée à quoi? À son contenu, c'est ça?
Oui, puis...
Elisabeth Plank.
En fait, c'est ça. C'est un peu stressant, en fait, d'être dans les nouveaux médias ou juste d'être une personne dans les médias, je crois, dans le sens qu'il faut être présent partout et même dans des endroits qu'on sait même pas qu'ils vont exister, là, tu sais. Genre Peach, là, c'est genre la nouvelle plateforme à ce qu'il paraît que...
Qu'est-ce que c'est, Peach?
J'ai aucune idée. je l'ai downloadée et je ne comprends rien. Les gens m'envoient des gâteaux. Tu peux envoyer un... j'ai rien compris, mais j'étais comme, faut que je me fasse... Faut que j'aille mon username.
Des vrais gâteaux?
Non, c'est que t'envoies des gâteaux, t'envoies des... En tout cas, je dirais que je vous le conseille, mais je comprends pas vraiment ça, Géo. Okay. C'est quoi? Mais bon, donc c'est un peu stressant. Tu te retrouves... justement, hier, on était dans un photo shoot, puis je disais, faut que je chasse mon Snapchat, faut que je chasse Instagram, faut que je... Puis on n'avait pas full le droit, fait que c'était correct, mais oui, c'est stressant, faut être partout. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, le point que vous faites, parce que, oui, le livre et la télé, pour moi, en tout cas, ça reste deux de mes buts immédiats, dans le fond, les plus importants, et ce sont deux médias assez traditionnel. Mm-hmm. Donc, oui, c'est cool d'avoir des millions de vues sur Facebook ou d'avoir beaucoup de gens qui me suivent sur Snapchat. Mais, tu sais, lorsque je vais avoir un livre ou lorsque je vais à la télé, en fait, pour parler des choses que je fais sur les nouveaux médias, pour moi, ça solidifie ce que je fais. Puis, je trouve ça amène un prestige, mais aussi, ça amène une crédibilité. Mm. Puis, ma mère, elle sait ce que je fais quand je fais ça. Fait que ça l'aide aussi.
Mais est-ce que c'est juste la mère ou c'est... Parce qu'il y a une aura supplémentaire attachée au livre, justement parce qu'il y a 500 ans, puis qu'il offre un surplus de crédibilité. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut écrire des livres ou des articles de fond dans les magazines?
C'est pas
non?
Ben, je pense que
toi aussi,
livre,
t'en prépares un, toi aussi.
Le livre amène une certaine crédibilité, ouais.
T'as mis Emma Pepin.
Puis ça reste... Je sais pas, il y a quelque chose de tellement tangible que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux garder chez toi comme un objet d'art, quasiment. Moi, en tout cas,
on sait ce que c'est pas Peach, c'est ça?
Ouais. Mais aussi, tu sais, en fait, c'est... un média n'exclut pas l'autre. T'sais, c'est pas parce que je fais des nouveaux médias que je vais rester juste là-dessus. Souvent, ce que moi je vois à la télévision, c'est que quelqu'un va faire ou on va faire un produit ou une émission pour la télé. Puis là, on va essayer de décliner ce contenu-là sur toutes les plateformes sans penser, créer, produire le contenu spécifiquement pour la plateforme. Fait qu'ils vont prendre des extraits télé, on va aller les foutre sur Facebook, sur Instagram. Puis là, tu respectes pas le langage de la plateforme puis l'audience qui est là. Puis ça, c'est un problème, tu sais. Donc moi, j'essaie vraiment de penser mon contenu selon la personne à qui je parle, puis la plateforme, où est-ce qu'elle va consommer le contenu, tu sais, sachant que quelqu'un va peut-être regarder un vidéo beaucoup plus court sur Facebook parce qu'il est dans l'autobus ou il est en ligne à l'épicerie, que d'aller foutre un super long vidéo sur Facebook qu'il ne regardera probablement pas parce que dans ses habitudes, dans son quotidien, ça ne marche pas.
Xavier?
Ce qu'on oublie parfois, c'est que c'est le fun. Ça fait appel à beaucoup de créativité de pouvoir adapter nos contenus, notre personnalité, notre travail sur ces plateformes-là. Ça reste un jeu, c'est trippant, c'est agréable. Puis c'est là que des fois on se confronte, en tout cas en entreprise, avec des gens qui trouvent ça, que c'est du travail.
C'est lourd.
C'est lourd, etc. Mais ça reste le fun. Puis je pense que, pour revenir un peu sur la question des plateformes, mais aussi sur la question du contenu, on le sent quand les gens ont du fun à faire ce qu'ils font. Donc, moi, si je regarde Elisabeth sur Snapchat, c'est que je trouve que ça n'a pas l'air d'être douloureux de faire ses Snapchats. Ça a l'air plutôt d'être le fun.
Par contre, hein?
j'ai envie de participer à ce fun-là. On oublie qu'il faut avoir du fun. On fait un peu semblant d'avoir du fun. Ça, des fois, ça peut marcher.
La base des émissions de télé.
Moi, je rêve d'un monde où on accélère le fun des gens pour les mettre dans les médias, puis qu'il y a encore plus de fun, puis qu'il y a encore plus de communauté qui a envie de célébrer ça, puis de célébrer aussi le contenu, les approches, les personnages, la réalité. Un des meilleurs exemples de ça, c'est la soirée T'es encore jeune à la radio, de Radio-Canada. C'est incroyable ce qui se passe là, en termes de liberté, en termes de fun, en termes
de
discours, de rencontres. En 2 heures ou en 4 heures par fin de semaine, on a comme explosé dans tous les sens, puis on couvre aussi large que on couvre toutes les années, toutes les générations, etc. Puis je trouve que ça, c'est un connecteur qui revient à la base de ce que c'est un média, l'outil de communion, l'outil de communication de base.
Mais ce que Xavier souligne, ce qui est intéressant,
Olivier Aguilé,
c'est que la soirée est encore jeune, les gars font partie aussi d'une génération qui ne voit pas ça comme du parascolaire ou une charge supplémentaire à leur travail. T'sais. Ça a pris du temps à ce que... Mettons, ça a pris du temps avant qu'un Martin Matt concevoit là, de manière positive l'idée de se filmer avec sa caméra pour générer du contenu sur YouTube ou sur une plateforme autre que le temps qu'il met à écrire son show, qui est en contrôle, qu'il, tu sais, avec un réalisateur ultra talentueux dans une production qui, en tout cas, qui maîtrise tout. Ça a pris du temps avant que les artistes voient ça comme pas juste une autre demande que tu me donnes pour le web, tu sais. Puis parce que c'était souvent traité de même, c'est en tournage, on dit « Ah, on voudrait tourner une clip pour le web. » Puis là, ils ont comme « Ah, un autre Kodak avec un réel monteur, caméraman, DOP, perchiste, là, tu sais, qui te pose des questions, puis là, tu fais « Ah, vraiment, qu'est-ce que ça va faire avec ça? » Donc, tout ça pour dire qu'il faut que ça soit les personnalités qui embrassent aussi ce médium-là. Tu sais, si vous autres, vous le faites parce que vous aimez ça, mais ça a pris du temps pour les médias traditionnels de faire comprendre à leur tête d'affiche que c'est bon pour eux aussi de le faire. Tu sais. Ouais, puis ce qui est intéressant, j'ai dans les pré-entrevues, c'est que tu t'intéresses, tu te questionnes beaucoup sur les formes, disons, l'incarnation nationale des formats mondiaux, en quelque sorte. C'est-à-dire pour faire en sorte que de trouver des formes qui sont universalisables, mais qui en même temps restent localisables.
Nous, c'est ça. T'sais, en 2016, c'est ce qu'on veut continuer à faire, c'est d'essayer de... On développe avec des pays, là, en ce moment, je suis souvent en développement avec des gens de Londres, d'Israël, puis en France, à développer des émissions qui... On réfléchit à savoir est-ce qu'eux autres, il y a un potentiel chez les plateformes avec lesquelles ils ont des liens. Donc, tu sais, des TF1, des NBC, la BBC, par exemple, à Londres. Puis qu'on se dit, nous autres, est-ce qu'à TVA aussi, ce show-là aurait des capacités de fonctionner, tu sais. Fait que ça fait que maintenant...
À TVA étant dans la société québécoise, c'est ça? C'est de voir si ça peut s'ancrer dans chacune des sociétés.
C'est l'idée de créer un format, donc une structure narrative qui raconte des histoires, qui génère des émotions télévisuelles, grand public, mais qui, après ça, peut être reproduite n'importe où. Puis ta culture bien, vient teinter le reste de cette structure-là. C'est le modèle dans lequel nous, on espère pouvoir faire en sorte que le contenu québécois de masse va pouvoir s'exporter puis rester vivant. T'sais. C'est d'utiliser la plateforme de TVA pour créer un show, prouver que ça fonctionne, être capable de le reproduire ailleurs après ça. Parce que aussi, puis ça s'imbrique tout dans une minimiser le risque aussi en télé. T'sais.
On en déduit que les médias sont un peu durs de compreneurs, réticents au changement et pas super à l'écoute. Sauf quand on parle des cotes.
Tu sais que la télé, c'est un des problèmes, le renouvellement de des auditoires, mais c'est vrai aussi sur plein d'autres plateformes. Pour vous, est-ce que ça devient une obsession, cette idée de rejoindre là, du 18-35, là, disons,
au contraire. Tu sais, on l'a fait l'année passée, on a fait un show qui était plus pour les jeunes, puis on s'est rendu compte que, tu sais, ça sert à rien. La télé, c'est un médium de masse. Ça sert à rien d'essayer d'aller chercher une frange de cette société-là. Dans la business qu'on est, la télé, c'est devenu un hit-driven business. Dans le sens que tu vas faire des revenus si c'est un gros show. Mais on n'a pas la capacité, comme Netflix, de faire plein de petits shows qui vont rejoindre une niche. Puis des fois, tu as un gros hit. Puis ça fait en sorte que tu rejoins tout le monde. Nous, c'est ça, en télé, il faut que tu rejoignes tout le monde. Fait que c'est le défi, puis c'est la pression qu'on a, c'est de générer du contenu qui va attirer toutes les générations. T'sais. Donc, c'est encore plus difficile qu'avant.
Puis tu disais, on a essayé, ça n'a pas marché. Tu parlais de quoi?
Faites comme chez vous, qui était une émission qu'on a faite, qui était placée à 7 heures, qui était une quotidienne, où on a clairement rajeuni le look, on a rajeuni. On a pris Marie-Pierre Morin, hein, quelqu'un qui était plus jeune, puis on l'a rejoint, les plus jeunes. Ils étaient là. Quand on regardait les chiffres, le 18-34, c'était super bon. Hein, part de marché, on skyrocket avec les jeunes, mais dans une business où c'est encore les revenus publicitaires avec le plus grand nombre, mais on ne faisait pas les chiffres qui font en sorte que tu vas chercher plein de gens. Puis là, en ce moment, l'émission qui remplace ça, c'est Piment Fort. Piment Fort, on va chercher le million. Là. Mm-hmm. Donc, Piment Fort, dans un contexte de télé, Piment Fort fait la job d'aller chercher plus de gens. T'sais.
Bon, ça te déprime?
Okay, oui, ça me déprime qu'on pense toujours au contenu en termes de code d'écoute, mais je sais que c'est ça, la business. Là, mais justement, j'avais sorti des chiffres là, tout à l'heure, tu parlais de Nielsen, mais dans le Wall Street Journal, les 25 à 34 ans, en 2010 puis 2015, le nombre d'heures passées devant la télévision a baissé de 23%. Puis les 18-25 ans, durant ces 5 années-là, les 5 dernières années, ça a baissé de 32%. Mm-hmm. Fait, pourquoi est-ce que des gens qui sont à la tête de compagnie vont créer du contenu pour une audience qui n'est même pas au rendez-vous? La télé ressemble, je pense pas que la télévision va aller de l'avant en essayant d'aller chercher les jeunes. Au contraire, ils vont essayer d'aller chercher les gens qui regardent la télévision. Tu sais, moi, j'ai déjà pitché des shows à des diffuseurs qui me disent « Ouais, mais qui va regarder ça? » Ben, des jeunes. Ben, Tammy, les jeunes n'ont pas la télévision. Pourquoi est-ce que moi, je me dérangerais même pour faire des shows pour eux alors qu'ils piratent, alors qu'ils sont sur Internet, alors que... Tu sais, moi, ça, c'est... Ça
vient me chercher parce que... Faut pas penser en termes de groupe d'âge, alors? C'est ce que ça veut dire?
Ou... Moi, c'est juste, ça vient me chercher parce qu'avec Tammy USC, par exemple, je sais que j'essaie de créer quelque chose, un contenu qui me ressemble, qui ressemble à ma génération, un concept qui est de son temps, qui fonctionne avec du contenu qui est créé à travers Instagram, qui est la plateforme actuellement où se retrouvent les jeunes. Puis, tu sais, des fois, oui, je trouve ça difficile de travailler dans un contexte où est-ce qu'on se dit « Ah, mais, tu sais, est-ce que les gens vont le regarder? » Tu sais, parce que les jeunes, ils vont l'avoir la télévision quand ils habitent chez leurs parents. Tu sais, fait que les ados, là, ils l'écoutent le show, ils m'écrivent sur Instagram, mais je perds les gens, là, entre, là, 18... Tu sais, ceux qui partent en appart à 18 ans, là, la première chose qu'ils vont couper, là, quand ils arrivent en appart à Montréal, c'est la télé. Fait que, tu sais, moi, je le sens que je perds une certaine tranche d'âge, puis, tu sais, ça me fâche, mais c'est ça d'avoir le contenu à la télévision. Puis, malheureusement, ce contenu-là, dans mon cas, peut pas être également diffusé sur le web à cause que ce sont des chaînes spécialisées qui marchent par abonnement. Et donc, par le fait même, ils se disent, ben si on met ce contenu-là sur le web, les gens vont se désabonner de la chaîne, je peux pas mettre le contenu sur le web. Fait que je crée du contenu pour des jeunes. C'est diffusé sur une plateforme où les jeunes ne sont pas, puis mon contenu, après, il est barré, puis je ne peux pas le mettre sur la plateforme. Tu sais, je veux dire, c'est absurde, mais ça ne changera pas à cause que les modèles d'affaires, pour l'instant, si ces modèles d'affaires-là ne changent pas, bien, ils vont juste perdre leur audience. Puis tu vois, ça, je sais que j'avais vu la question, tu sais, c'est quoi un petit peu le rôle du diffuseur public en 2016, mais tu sais, pour moi, c'est impératif que justement, puis je le vois avec des initiatives avec Tout.tv, que Radio-Canada essaie d'aller renouveler l'audience, mais c'est définitivement pas le cas de toutes les chaînes actuellement, puis je trouve ça dommage parce que ça va créer une télévision qui ne ressemble pas à notre génération et aux générations futures.
Moi, je trouve que je reviens au concept de flexibilité, mais il faut...
Xavier Cranstrom-Richard.
Le problème, c'est que les créateurs, les créatrices, on est tous impatients, on est tous pressés, mm. on a envie que ça bouge rapidement parce que la force de notre fougue, elle est là. Notre fougue, elle est là, notre puissance créatrice, elle est là, notre réseau, il est là. Tandis que les grands réseaux fonctionnent sur des plages de développement qui sont sur 10 ans, 20 ans. Si on regarde ça un peu avec un peu de recul, les chaînes généralistes, ben, dans le fond, ils font un peu d'expérimentation, mais dans le fond, ils sont encore en train de viser l'étal des baby-boomers, tu sais, qui sont encore le principal public. Donc, ils vont tranquillement accompagner en décroissance ce public-là, en essayant de bâtir nouvelles plateformes comme Tout.tv le fait. Sauf que c'est timide pour l'instant, on s'entend. Mmh. Fait que nous, c'est sûr que les 18-35, on a envie que ça bouge pas mal plus rapidement. Fait que c'est normal qu'il y ait une petite confrontation entre les deux. Mais l'idée, c'est que comment on fait pour peut-être bouger plus rapidement? Peut-être que c'est impossible. Peut-être que à l'heure actuelle, moi, c'est pour ça que je trouve qu'on vit dans une époque emballante. Pour moi, 2016, ça incarne beaucoup ça. Autant du point de vue numérique, technologique. Tu sais, les compagnies médias deviennent des compagnies techno. Autant du point de vue des contenus, à l'heure où on se parle aujourd'hui, il y a comme des débats sur le blackface, sur la représentation des minorités ethniques à la télévision. Je trouve ça fantastique. Je trouve qu'on vit une époque où, tu sais, on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années, sur les enjeux féministes, sur les enjeux de genre, sur les enjeux sexistes, des entrevues comme celle de Coria, si tout le monde en parle, a battu tous les records de viralité à Radio-Canada. Ça a été un immense hit, et puis pour des bonnes raisons, tu sais, pour des raisons, pour des bonnes valeurs, si on veut, tu sais, avec un discours, pas juste un gars qui fait un gag, pas juste un sketch d'humoriste, pour une entrevue porteuse avec du sens, avec un propos. Je trouve qu'en plus de ça, il y a cet univers-là où aujourd'hui, il est où le point de bascule? Est-ce que... Moi, je pense beaucoup... j'aime beaucoup la radio. Je réfléchis beaucoup sur l'industrie de la radio. Je me dis, aujourd'hui, il n'y a pas cette plateforme-là qui permettrait, par exemple, de financer, de rassembler les créateurs radio. Pour l'instant, c'est une industrie qui est morte. Mais on est un peu à ce point de bascule-là. Ça va arriver. Là. Il y a quelqu'un qui va se lancer, qui va l'essayer. Peut-être que ça ne sera pas la bonne personne, la bonne équipe, le bon financement.
Qui va se lancer pour faire quoi?
Pour faire une plateforme radio. Qui va financer un premier podcast à succès de storytelling avec de la publicité à l'intérieur, avec peut-être un outil de publicité dynamique qui permet de remplacer tout ce qui est en train de naître aux États-Unis. Peut-être que ça sera la même chose pour des plateformes, la distribution de formats plus dans l'univers niché des jeunes, par exemple. Pas tant niché, mais avec un regard jeune sur les choses. Nous, on est une petite société, mais j'imagine que ça pourrait arriver à un moment. Il faut juste trouver le point de bascule, puis je pense que ça s'en vient. Mm-hmm. Des gens qui vont réussir à trouver les bonnes équipes, les bons financements pour créer de la compétition là où les grands réseaux ne l'avaient pas vu venir. Mm-hmm. Mais c'est sûr, c'est compliqué, c'est long, puis c'est ça. Puis derrière ça, il y a toute une génération de créateurs et de créatrices qui sont impatients derrière ça.
Les grands réseaux, parce que je ne veux pas juste prendre la défense, mais... Ils le savent, là, tu sais. Les décideurs qui sont dans des postes de haut niveau, ils voient les chiffres, ça. C'est, mais effectivement, ils doivent maintenir une industrie, atteindre des chiffres pour continuer à générer du revenu, alors que c'est dans une industrie qui est complètement, tu sais, qui n'est même plus en mutation, là, tu sais, qui a été barbarisée complètement, puis qui essaie de quand même venir le faire, puis d'essayer en sorte de créer des revenus, puis en même temps, ils savent que à travers des gens comme Xavier, tu sais, puis c'est un peu mon rôle aussi à l'intérieur de cette corporation-là, d'essayer d'amener une autre façon de voir les choses. Mais c'est intrinsèque aussi à eux. Tu sais, les gens chez Invasion, c'est aussi intrinsèque d'une façon de penser dans les grands médias. Puis effectivement, tout le monde le sait que ça va revenir un jour, le grand succès télé, mais ça se peut que ça soit du monde qui, en ce moment, ils ont 10 ans, tu sais, en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que les autres vont être capables de le penser, le prochain succès, à l'extérieur des codes télévisuels, comme moi, je suis imbriqué depuis passe-partout, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça va prendre du temps, tout le monde le sait, mais il va y avoir effectivement, comme tu dis, un moment où ça va arriver, puis nous autres, on l'appelle le Black Swan, là, tu sais, c'est lui qui confirme la règle ou qui va en avoir un, on ne sait pas d'où ça va sortir, puis il va complètement redéfinir les règles.
Bon. Ben, est-ce que vous commencez à les redéfinir, vous? Parce que je comprends bien qu'un des moyens d'y arriver, de rejoindre les jeunes, c'est par des formes plus... Tantôt, tu disais qu'il fallait avoir du fun, mais est-ce que c'est pas ce que vous montrez aussi, une espèce d'idée d'avoir du plaisir et d'avoir une perspective humoristique un peu sur les choses? Et je voyais que le Brookings Institute a commandé, là, une professeure d'Harvard récemment, un état de la nouvelle... donc de l'information politico-sociale utile en société. Et puis, il y avait 6 ou 7 grandes conclusions, comme les journaux sont des dinosaures, la nouvelle est en train de disparaître, la radio et la télé se maintiennent, mais sont basculées, sont ébranlées. Ensuite, il y avait l'idée que tout se numérise, les réseaux sociaux prennent de la force. Mais le 7e point, c'était pour les jeunes, l'information passe par l'humour. Et est-ce que c'est pas ce que vous confirmez, vous aussi, avec ce que vous faites? C'est-à-dire qu'il faut être amusant pour leur retenir l'attention.
Élisabeth Plank.
Oui, ben moi, en fait, ça n'a jamais été une stratégie plus que... En fait, moi, c'est le genre de contenu que je consomme. Donc, oui, j'écoute les nouvelles, j'écoute la radio, mais le Daily Show, je l'écoute. Puis en fait, c'est le cas pour les jeunes, là, avec le nouveau Daily Show réinventé avec Trevor Noah, mais aussi avec John Oliver sur HBO. Et puis les
Fallon
shows
aussi.
Oui, Fallon, ouais. Même Amy Schumer, je veux dire, tu sais, Comedy Central qui était à l'origine, tu sais, c'est un site maintenant, mais aussi une chaîne de contenu qui est du entertainment, mais la plupart des jeunes, c'est là qu'ils vont prendre leur information, en fait, la nouvelle passe à travers ce messager-là. Donc, puis pour moi, en fait, parler de sujets controversés comme le féminisme, en fait, moi, c'est vraiment à travers le féminisme que je suis arrivée dans le monde du journalisme et dans le monde des médias. J'ai toujours dû faire des blagues ou essayer de comme désarmer les gens avant de parler de ces sujets-là, parce que ce que j'ai réalisé dans le fond dans mes expériences personnelles de 1 à 1, même à l'école, c'est que c'est justement si les gens se sentent attaqués et les conversations qui sont difficiles, qui sont inconfortables, que ce soit des conversations féministes ou des conversations sur le blackface, sur la justice raciale, surtout aux États-Unis, ce sont des conversations difficiles à avoir, mais si tu peux injecter une ou deux blagues mm-hmm. Ou même rendre le contenu intéressant, divertissant.
Toi, Noémie, es-tu drôle? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où il faut être sérieux, puis revaloriser le sérieux et la...
Revaloriser le sérieux?
Et le... Est-ce que c'est nécessaire de temps en temps de maintenir... la barre par rapport au sérieux, puis de ne pas rire de tout, pas tout transformer en blague. Je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à Radio-Canada, des fois, on a l'impression, même à l'émission où tu participes...
Là, plus on est fou.
Là, il faut rigoler de tout. Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter de rigoler puis pour essayer d'intéresser les gens? Puis juste être sérieux. Ce serait peut-être une vieille juste forme intéressante. T'es sérieuse dans tes articles?
Oui, je suis sérieuse.
C'est ça?
Ben, oui, je suis sérieuse. Oui,
bon, c'est pas mauvais.
Ben, c'est pas mauvais, mais c'est que, je sais pas, peut-être que... Je trahis quelque chose en disant que, je sais pas, il y a comme un petit... j'ai l'impression que quelque chose de péjoratif au mot sérieux.
Mais pourquoi? Mais,
sérieux. Ben, c'est que j'opposerais pas l'humour, je n'opposerais pas ce qui est sérieux à ce qui est humoristique. T'sais, je pense que ce que les gens recherchent, c'est un ton, c'est une voix. Donc, est-ce que je suis sérieuse? Moi, j'ai l'impression que j'ai une voix quand j'écris, même si c'est sûr que ça demeure sérieux et l'humour. Tous les sujets ne se prêtent pas à l'humour, mais il faut peut-être un petit peu s'éloigner de la neutralité extrême. En fait, c'est pas la neutralité, c'est pas le bon mot, mais de la voix robotique.
L'objectivité mécanique, là.
L'objectivité mécanique, c'est qu'il y a moyen d'être rigoureux, puis il y a moyen d'être indépendant et neutre et non partisan, mais en étant subjectif et en étant personnel et en étant proche.
C'est la voix de l'écrivaine un peu aussi.
Ben, tu sais, c'est la voix de... que justement, quand les gens parlent de « long form », qui pour moi n'est pas le bon terme, c'est un peu ça qu'ils redécouvrent. C'est, dans le fond, c'est la voix de l'écriture magazine, mais on ne dit plus ce mot-là parce que c'est l'objet magazine, c'est pas ça qui est approprié, mais c'est la voix du « new journalism »
C'est la vieille voix aussi des essayistes là, qui jugent le monde à partir du jeu, là, qui disent ben, « je crois que même Montaigne était là-dedans ». C'est-à-dire qu'il y a des traditions quand même là-dedans.
Ben, c'est-à-dire c'est où on dit « c'est journalism with an attitude » un peu. Mm-hmm. C'est que tu apportes ton regard, tu apportes... C'est parce que c'est difficile d'avoir ces discussions-là, je trouve, parce que c'est... Je trouve qu'on confond subjectivité et partie, et partisanerie, mais c'est pas ça, là. Mm-hmm. Si j'écris avec toute ma subjectivité, puis toutes mes sensations, puis tout ce que je suis, puis mon regard personnel, mais ça veut pas dire que je suis partisane, puis que je suis idéologique, donc... Mm-hmm.
Et que tu n'as pas fait le travail de vérification, par exemple, à la base
c'est du métier. Ça. C'est puis, ça. Donc, moi, j'opposerais plus... C'est ça, c'est plus... question de neutralité et d'équilibre que de que
d'objectif. Vous aussi, vous misez sur ça. Vous voulez intervenir?
Oui, ben, juste pour ajouter, je pense que vous avez tout à fait raison. Puis, en fait, moi, je pense que l'objectivité, ça n'existe pas vraiment. Je veux dire, tout le monde parle d'une subjectivité, je parle de leur perspective. Puis, en fait, de reconnaître cette perspective-là, moi, je préfère savoir d'où tu viens. Ouais. Quand je vais lire ton contenu, que tu fasses à semblant que tu viens d'une objectivité puis que tu n'as eu aucune perspective ou expérience personnelle.
C'est un outil, la subjectivité.
Exactement, aussi. Exactement. Puis je pense qu'on, pendant longtemps, l'objectivité, c'était la perspective d'un homme blanc straight, là, tu sais. Et puis, souvent, moi, en tout cas, surtout au début, c'est ça, je me faisais dire, t'es journaliste, mais, tu sais, t'as, you're biased, tu sais, tu viens d'un, parce que je suis féministe, mais c'est comme, ben, toi, si t'es sexiste, toi aussi, tu viens d'une certaine perspective, là, puis c'est une perspective, c'est pas neutre, tu sais, dans une histoire que, tu sais, on parlait d'agression sexuelle où tu blâmes la victime ou le langage que tu utilises, puis il y a encore ce langage-là qui est utilisé dans des médias super
mainstream. Ça se cache derrière l'objectivité.
Exactement, c'est pas objectif. Puis moi, de focusser sur justement défendre, de pas blâmer la victime, puis d'utiliser des mots qui sont bien choisis, en fait, je trouve ça plus objectif.
Toi aussi, tu mises là-dessus?
Ouais, pareil. Tout ce que je...
T'as mis Emma Pepin.
C'est ça, je mets pas l'humour à... T'sais, d'un côté du spectre, puis là, après, t'as la rigueur. T'sais, pour moi, t'as la rigueur, puis t'as pas de rigueur. Puis la rigueur peut être faite soit avec un ton qui peut être un peu humoristique,
plus personnel. Tu mets sur la personnalisation des perspectives.
Ben, c'est certain que, par exemple, dans le cas de Tammy USC, où l'émission porte mon nom, je vais infuser le contenu de ma personnalité. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est ma perspective du monde, puis c'est mes commentaires sur Instagram.
C'est toi qui voyages, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. fait que c'est sûr que, ouais, je pense que c'est pour ça, tu sais, aussi, il y a la notion que les journalistes aujourd'hui ont des brands personnels, tu sais, puis c'est ça qui fait que ces journalistes-là vont aller se retrouver sur des BBC, sur des MSNBC et sur d'autres plateformes, puis qui vont être invités à faire partie de tables rondes comme celle-ci, tu sais. Puis ce brand personnel-là, ben, il est majoritairement construit grâce à une certaine personnalisation, un ton, ça peut être de l'humour... mais quelque chose qui est très personnel à la personne. Mais tu sais, je pense pas que ça doit être opposé à la rigueur journalistique, au contraire.
Ces temps-ci, on parle beaucoup de féministes dans les médias. Un point tel qu'on sait maintenant que Richard Martineau est féministe. Mais que Mathieu Bock-Côté ne l'est pas. Le fait, c'est que c'est un sujet hyper payant.
Ouais, ben j'ai un billet que je signe dans l'actualité qui s'appelle « Dégâts des filles
». Noémie, merci.
Puis, j'adore faire ça. C'est un autre registre complètement. C'est justement ça, la formule, c'est que je recense des études scientifiques de toute discipline qui peuvent venir éclairer les questions qu'on se pose sur des enjeux hommes-femmes. Donc, comment dire, ce sont des débats qui suscitent les passions, puis souvent, on se pose des questions auxquelles des scientifiques ont déjà fourni nombre de réponses. Fait que moi, je me donne un peu pour tâche de vulgariser ça, plus dans un esprit de sensibilisation puis de conscientisation que de revendication, parce que considérant le média dans lequel je travaille aussi, il y a une espèce de désir d'aller chercher le plus large public possible. Mais c'est sûr que c'est une sensibilité qui informe tout ce que je fais. Quand
ça marque tes sujets aussi. Ouais. C'est toi qui as choisi aussi de travailler sur les agressions sexuelles dans l'armée, dénoncé cette situation-là, qui a mené même à des commissions en partie.
Oui.
Là, donc,
non, ça, c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr que c'est une perspective qui a informé ce travail-là. Puis je suis tellement contente que, notamment par le travail de mes collègues ici, ça soit une perspective qui est de moins en moins une perspective de niche, mais... Ben, en fait, je le souhaite, là, mais qui est plus réservé à des médias féministes ou des journalistes féministes. Ou je pense qu'au cours des trois dernières années, ne serait-ce que sur la question des violences sexuelles, mm-hmm. moi, quand j'avais proposé ce sujet-là en réunion en 2013, là, les gens m'ont regardé en me disant « Ben, OK, si ça te tente, mais bonne chance, puis mm-hmm. tu nous reviendras si tu trouves quelque chose. » Puis en 3-4 ans, c'est devenu presque un sujet...
T'as envoyé un troupeau d'éléphants, là, c'est ça.
Ben, c'est-à-dire que personne parlait de ça. Mm-hmm. Tu sais, imagine, il y a juste 3-4 ans, personne parlait de mm-hmm. ça. C'était trop tabou, c'était trop difficile de parler de ça. Voyons donc, tu pourras jamais trouver des témoins. Voyons donc, tu peux mm-hmm. pas prouver ça. Personne va vouloir lire ça. C'est bien trop, tu sais, déprimant, obscur, etc. Puis maintenant, tu sais, je me fais maintenant désinviter des fois de certaines mm-hmm. émissions parce qu'ils ont trop de sujets d'agression sexuelle dans leur bulletin, tu sais.
Puis est-ce que les nouvelles technologies ont aidé d'une quelconque façon à ton travail? Autour de ces questions, ne serait-ce que pour contacter des victimes, par exemple, ou pour...
Ma foi. Ça a vraiment été un travail, je te dirais, avec, encore une fois, des techniques qu'on pourrait qualifier de vieille école. Okay. Outre, tu sais, contacter des gens à travers des groupes Facebook mm-hmm. et tout ça, mais bon, ça, c'est pas tant la nouvelle technologie, mais ça a vraiment été un travail de... faire bien des téléphones, puis lire beaucoup de documents, puis analyser beaucoup de décisions de cours, puis faire beaucoup d'entrevues, puis attendre des retours d'appels pendant des mois. Donc,
okay. Mais si je peux me permettre...
Oui, t'as mis Emma Pepin.
Moi, je pense que les nouvelles technologies ont vraiment contribué dans le sens à l'action du féminisme, dans le sens que, justement, avant, peut-être que t'allais proposer ces sujets-là, puis là, dans les meetings éditoriaux, on disait « Ah, mais non, on va pas donner personne d'espace pour ça. » Alors que là, les victimes et les filles, avec les médias sociaux, prennent la parole. Ouais. Tu sais, t'as eu des mots-clics, des phénomènes comme agression non dénoncée, où est-ce que les filles, « OK, tu veux pas m'entendre sur dans ton bulletin télévisé, mais je vais te parler sur mon Facebook, je vais te parler sur mon Twitter, je vais te parler sur Instagram. » Puis ça, à échelle exponentielle, grâce au travail, entre autres, de filles comme Liz, qui s'expriment sur ces enjeux-là avec un ton qui, oui, c'est, tu sais, on parle d'enjeux super sérieux, mais aussi avec humour, en étant un peu baveuse, puis en remettant à leur place les gens qui croiraient qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le féminisme. Tu sais, on se demande, on est en train de se dire, est-ce qu'on devrait parler du féminisme? Tu sais, je veux dire... C'est l'égalité entre l'homme et la femme. Là. Le fait que les filles doivent s'imposer pour en parler, puis moi, je trouve ça absurde qu'il faut qu'on demande la permission pour parler de ces choses-là, mais je trouve ça cool aussi en même temps de voir que les filles prennent les choses en main. Puis je trouve ça encore plus cool de voir quand les gars aussi profitent des nouvelles technologies puis des plateformes pour aussi joindre ce mouvement-là, parce que 150% de la population, je veux dire, t'arriveras jamais à l'égalité homme-femme. Mm-hmm. Tu sais, fait que ça prend tout le monde dans ce discours-là. Puis je pense que les nouvelles technologies apportent énormément à l'enjeu du féminisme.
Ouais. Élisabeth Plank.
Puis en même temps, c'est tellement un sujet qui concerne les hommes. Je veux dire, les agressions, c'est qui les commet? Je veux dire, ce sont des hommes, dans la plupart des cas, qui sont à l'autre bout de ces agressions-là. Pas juste envers les femmes, mais envers les hommes aussi. Donc, moi, en fait, je trouve ça... ridicule, en fait, qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'hommes qui en parlent, mais il n'y en a pas assez. La même chose avec l'avortement, je sais qu'au Québec, c'est pas autant un sujet qui est débattu, mais aux États-Unis, c'est vraiment... c'est juste un sujet qui concerne les femmes. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Bon, en fait, c'est ça, un des projets que je veux faire, c'est d'avoir, tu sais, les histoires d'avortement, souvent, c'est les femmes qui doivent en parler, qui doivent parler pourquoi c'est important qu'on ait ce droit-là. Mais il y a toujours eu un homme qui a été impliqué dans une histoire d'avortement. Je veux dire, ça prend deux personnes.
Vous préparez un livre sur le sujet, là.
Ben oui, en fait, ben mon livre, c'est sur les hommes en général, en fait.
Vaste
sujet. Oui, c'est un gros sujet, puis c'est écrit par une femme, fait que c'est okay. Ça qui est comme un peu intéressant. Mais ça va être aussi avec la vidéo, ça va. En fait, ce que je veux faire, c'est aller comme dans Washington Square Park, qui est un parc dans le centre près de NYU à New York, puis juste de m'asseoir à une table, puis dire free advice from a woman. Tu sais, juste voir qu'est-ce que les hommes, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui leur passe par leur tête. Je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de changements, et puis je pense qu'ils prennent la parole beaucoup. Mais je pense pas qu'ils prennent beaucoup la parole sur les sujets comme l'agression, sur les sujets comme l'avortement.
Attends, je vais comprendre comme il faut. Qu'est-ce que tu vas faire exactement là? Donc, tu vas installer une petite table.
Ouais.
Tu vas donner dire que
je vais une petite table. Ouais.
OK, free advice. Un peu comme Pinot, qui le docteur reçoit, Five Cents.
Ouais, je vais donner des conseils gratuits. Puis ça va m'aider. En fait, moi, c'est pour ma recherche personnelle.
Mais tu vas filmer ça et c'est ce qu'on va retrouver.
Ouais, mais ça, c'est même pas. Ça va pas être dans le livre. En fait, c'est sûr que je vais faire une collecte de de ces données-là. Donc, je me suis fait poser beaucoup de questions. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se demandent est-ce que, lorsque je vais sur une date, est-ce que je paye pour le repas? Tu sais, même ça, je pense que c'est une question que même les hommes et les femmes, ils ont beaucoup de discussions sur ça. Il y a 10 ans, c'était clair. Là, c'est comme moins clair, tu sais. Ils veulent pas offenser, mais ils veulent aussi, tu sais,
oui, ils se rappellent que vous faites plus d'argent maintenant.
Oui, mais on fait encore pas autant d'argent. Donc,
20% de moins. OK.
Donc, ouais, c'est un peu comme partout. En fait, c'est ça. Je suis encore dans le développement, mais oui, juste pour... là, c'est moi qui m'égare, mais oui, je crois que les femmes, dans les 5 dernières années, je veux dire, moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que Mick, c'est un site qui est féministe, mais ce ne l'est pas. Mais le féminisme, en fait...
C'est toi qui es féministe.
Oui, moi, je suis féministe. Oui, et les sujets qui sont les plus populaires, en fait, sur Mike, ce sont des sujets féministes. Okay. Puis c'est pas juste les femmes qui veulent les lire, ce sont les hommes aussi. Donc, on répond à cette demande-là.
Ben, est-ce que ça a été difficile d'imposer cette perspective au sein du site?
Moi, ça a été super facile.
Dans
ouais. Ben, en fait, j'étais des millions de personnes qui lisent les articles sur le féminisme. C'est quasiment un business incentive.
Olivier Agabi.
C'est pas juste dans le discours féministe que ça a généré des discussions sur la place des... Ça a généré des discussions sur la place des femmes, nous, à travers...
Dans vos émissions.
Dans les émissions, dans ouais. La place aussi. Dans mon équipe, moi, c'est le ratio est égal. T'sais. Le nombre de concepteurs, c'est égal. Goffé, puis en télé, dans toutes les équipes de production aussi, un bon ratio. Mm-hmm. Mais c'est venu aussi dans nos discussions beaucoup plus présent maintenant. Dire avant, là, pour vrai, c'était que les animateurs. Mais là, c'est sûr, tu parles, puis là, c'est tous les humoristes. Tu penses à ces affaires-là. Inévitablement, la télévision devient aussi une représentation... C'est des femmes dans certains milieux. T'sais, on fait une émission de cuisine, mais c'est deux chefs. Est-ce que c'est la télé qui crée le problème de ne pas avoir un gars puis une mm-hmm. femme, ou c'est dans le milieu de la cuisine, ou qu'il n'y a pas non plus une égalité là-dedans? Parce qu'on devient quand même le miroir, en tout cas, de ce qui se passe en société. Mais ce discours-là, comme le discours sur la place de toutes les cultures à la télévision, ça a un effet dans les discussions de haut niveau en création mm-hmm. aussi, là.
Si vous pensiez qu'on allait faire une table ronde sur les médias de 2016 sans jaser de contenu de marque, ben, vous étiez dans le champ.
Les publicités et le contenu finissent par se mélanger un peu. Comment tu fais pour... Où tu tires la ligne? Là? Toi, il y a eu beaucoup de controverses là, en 2015. Là, on en a eu chez nous au Devoir.
Ouais.
Ça va pas s'arrêter, ben, tout ça? Là?
Je pense que l'important à la base, c'est la transparence. Donc, mm-hmm. que je fasse un contenu sur Instagram ou à la télévision ou sur le web qui est commandité par une marque, c'est important que ce soit mentionné de façon très claire. Mais le meilleur contenu que j'ai vu dans l'année 2015, là, c'était souvent du contenu qui était fait par des marques. Ouais, Netflix avec, par exemple, T-Brand Studio, qui est le studio du New York Times. Parce que c'est pas... Par exemple, le New York Times va faire du contenu des publicités natives. Mm-hmm. Donc, par exemple, ils vont faire un dossier sur les femmes en prison, mais c'est pour faire la promotion de la série Orange is the New Black. Mm-hmm. Puis ce contenu-là a été... Même les journalistes qui regardaient ça d'un œil super critique puis qui étaient comme « je peux pas croire que le New York Times se lance dans la publicité native », ont fini par remarquer que la rigueur journalistique puis la qualité du contenu était tellement au rendez-vous que même eux, ils tweetaient pour dire comme « waouh, ce dossier-là sur les femmes en prison est impeccable ». Mais ça a été produit par T-Brand Studio pour Netflix. Mm-hmm. C'est de la pub, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est écrit, c'est là, tu le vois que c'est de la pub. Puis je pense que les gens aujourd'hui, que le contenu soit fait par une chaîne privée ou par une marque, moi, en autant que le contenu il est bon, là, honnêtement, je m'en fous, il vient d'où. Si la qualité du contenu mm-hmm. est au rendez-vous, puis que je sais c'est qui l'a créé, puis je suis capable, en tant que personne intelligente, de faire les distinctions, puis de faire le choix de faire « OK, je vais consommer ce contenu-là », moi, ça m'importe peu, tu sais, je veux dire, que ce soit une marque ou une chaîne privée. Je ne vois pas mm-hmm. pourquoi on regarde ça d'un œil aussi critique. Puis je pense que vraiment, dans la dernière année, il y a beaucoup de marques qui ont prouvé qu'elles étaient capables de créer du contenu qui était vraiment de haute qualité, mais il faut que la qualité soit là. Si les marques se mettent à faire du contenu boboche,
ça ne marchera
pas. Mais s'ils se mettent à produire les meilleures séries, les meilleurs podcasts, les meilleurs dossiers, moi, je trouve que c'est super.
L'actualité en fait aussi du contenu natif, comme
ouais.
ça, là, de la publicité.
Comment tu
réagis par rapport à
ben,
tout
écoute,
ça?
Ben écoute, c'est sûr que c'est une source de revenus, tu sais, puis je peux pas parler au nom de l'actualité mm-hmm. Du tout, là. Tu sais, c'est sûr que il peut se faire du très, tu sais, du contenu de très haute qualité, puis oui, c'est transparent, tu sais, oui, c'est important que ce soit transparent et tout ça. Moi, ma crainte avec ça, c'est juste que ça déplace le genre de sujet dont on va traiter. Tu sais, il faut que ces partenariats-là...
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça donnerait sur les prisons des femmes, là, par exemple?
Bien, il n'y a personne qui aurait financé une enquête sur les crimes sexuels dans l'armée, là. Tu sais, ça n'existe pas, là. Mais donc, il faut que ces partenariats-là servent à nous permettre de continuer à faire ce qui ne sera pas financé. Mais c'est sûr que...
Si l'armée commanditait un article...
Xavier Cronstrom, Richard. Je sais pas.
On aurait pu difficilement penser que les crimes sexuels dans l'armée et le développement de toute cette question-là aurait pu être difficilement trouvé place dans le magazine parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre publicité et contenu.
Mais je pense aussi qu'il faut... Tu sais, moi, quand je parle du contenu de marque, là, pour... Je pense que c'est vraiment important que la presse puis l'information, là, quand je pense au cahier A de la presse, là, je veux pas voir du contenu natif. Là. Mais si la presse peut utiliser la technologie derrière la presse plus pour faire des écrans, des trucs super interactifs, du contenu créé par des marques qui touchent des sujets qui sont pas la politique et les enjeux qu'on retrouve dans l'actualité, ben, pourquoi pas? Mais je pense que c'est important de mentionner, parce que je veux pas que vous pensiez que, tu sais, comme je veux sponsoriser la nouvelle, là, mais l'information, oui, c'est important qu'il y ait une indépendance qui continue, puis qu'il y ait une rigueur, puis une qualité de l'information, mais ça empêche pas que pour tous les autres dossiers de ce que je lis dans les médias qui sont pas de l'information pure et dure, je vois pas pourquoi ça pourrait pas démarquer.
Mais là où c'est délicat, c'est ça, c'est là où ça se côtoie dans...
De façon un peu sournoise, parfois. C'est ça.
Est-ce que ça va pas finir par dicter le genre de sujet dont on traite?
Elisabeth Plank.
En fait, un exemple de ça, c'est cette année, l'année passée, en 2015, BuzzFeed a beaucoup de relations avec Dove. Je veux dire, Dove leur paye beaucoup d'argent. Et puis, pour faire des pubs et tout ça, puis du native advertisement. Mais il y a eu un article comme qui critiquait une campagne de Dove. Et puis, l'article a disparu. Genre, il y a plein de gens, journalistes justement, qui ont dit, qui ont noté la disparition d'un article qui était critique de Dove. Et puis, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr que il y a l'attention dans laquelle tu parles va exister, puis il va falloir justement qu'on ait des règles.
Mais est-ce qu'il y a aussi une censure qui se passe déjà? Oublie les marques, là, juste dans les journaux. Je sais pas, je veux pas être une fille qui fait de la conspiration.
Ouais.
Mais, tu sais, je veux dire, il y en a peut-être déjà une censure qui se fait quand tu travailles chez lui ou chez lui, puis c'est quoi la ligne éditoriale, puis la politique du journal. Il y en a déjà un peu de la censure qui se fait à cet égard-là. Puis, tu sais, dans les deux cas, je pense que ça doit être dénoncé. Mais oui, effectivement, ça prend des lignes qui sont claires. Mais je pense que quand tu regardes les modèles financiers, c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Ouais. Parce que, tu sais, d'avoir un pre-roll avant une vidéo YouTube qui te dit dans combien de secondes cette torture va être terminée, ça veut dire que même la plateforme qui diffuse le contenu sait que ça te fait, ça t'emmerde tellement qu'ils te disent dans combien de secondes ça va se finir. C'est pas soutenable à long terme, ce modèle-là. T'as de plus en plus, regarde les chiffres avec le ad blocking. Maintenant, les gens vont pouvoir faire du ad blocking directement sur mobile, puis directement dans les applications sur mobile. Pourquoi est-ce qu'une marque va aller acheter un média pour faire de la pub sur un mic ou un ci ou un ça, si les gens vont bloquer les publicités, vont appuyer sur le bouton skip à toutes les 3 secondes? Sont aussi bien d'aller créer le contenu, de le produire, de s'assurer qu'il soit bon et qu'il soit vu. Fait que pour moi, le contenu de marque, c'est inévitablement le futur.
Nos nommés ont beaucoup d'opinions. Ça fait un peu partie de la description de tâche d'un acteur médiatique, mais c'est pas tout. Ils ont aussi cette année des projets concrets pour brasser la cage du milieu. Tammy Emma Pepin lance sa boîte un peu plus loin.
En fait, c'est que je vois que, présentement, je trouve que les boîtes de prod mutent vers des boîtes publicitaires, puis les boîtes publicitaires essaient de devenir des boîtes de production.
Comme Urbania un peu, c'est ça?
Oui, ben en fait, c'est que à cause que les gens se divisent puis que les audiences sont fragmentées, les revenus publicitaires sont fragmentés également. Ce qui fait que là, je me dis, moi, pour être capable de financer le contenu, je crois vraiment au contenu de marque. Puis je pense que les marques, de plus en plus, on le voit, t'as des chaînes comme Marriott qui non seulement sont en train de créer du contenu, mais qui bâtissent des studios de production qui leur appartiennent avec leur propre staff, avec leurs propres personnes qui écrivent, qui font des Snapchat, qui font des vidéos. Puis moi, je pense que les producteurs, je vois pas pourquoi un Coke ou un Pepsi pourrait pas être l'équivalent d'une chaîne de télévision privée qui crée ses propres podcasts, qui crée ses propres émissions. GE a fait récemment, à la fin de l'année 2015, un podcast de science-fiction, de science-fiction, qui s'est placé numéro un sur iTunes avant Serial, avant tous les podcasts. Puis moi, je pense que les marques ont besoin de gens qui créent du contenu pour eux, pas pour parler du produit, mais pour parler, pour créer du contenu que les gens vont vouloir écouter, qui a rapport avec les valeurs de la marque. Et présentement, c'est pas les agences publicitaires qui vont être en mesure d'aller créer ce contenu-là, parce que eux sont habitués de faire des pubs avec une photo, avec un produit, une photo d'une voiture, avec le prix de la voiture de location. Ils vont pas aller créer une série de fiction de deux buddies qui s'en vont en road trip. Puis bon, je lance n'importe quelle idée. Mais donc, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment une boîte d'idéation qui va créer du contenu avec un gros focus pour créer du contenu pour les marques qui vont, à mon sens, devenir les diffuseurs de demain. Tu sais, je vois qu'est-ce qui se passe avec... Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des chaînes spécialisées, là, dans ce cas-ci, Évasion. Mais tu sais, je vois qu'est-ce qui se passe avec le CRTC puis la télé à la carte. Tu sais, aujourd'hui, c'est des chaînes qui font partie de ton bundle, là, ton package, parce que, bon, tu décides que tu payes, je sais pas, j'ai plus de télé depuis longtemps, mais tu sais, tu payes un certain prix, puis là, ben, t'as certaines chaînes spécialisées qui viennent dans ce package-là. Puis ces chaînes-là marchent avec des abonnements. Leur modèle d'affaires, là, si on regarde leur sommaire financier sur le site du CRTC, là, c'est majoritairement l'argent vient des abonnements. Qu'est-ce qui va arriver quand maintenant tu vas pouvoir prendre la télé à la carte? Le modèle d'affaires de ces chaînes-là va s'écrouler. Au Québec, je pense que, bon, avec la langue, peut-être qu'on est à un avantage comparativement au Canada anglais. Mais donc, qui va devenir l'Évasion de demain? Pour moi, c'est North Face. Pour moi, c'est une compagnie comme Abitibico qui fait des canaux en Abitibi, qui va devenir un magazine, qui va devenir un distributeur de contenu, de shows, de podcasts. Puis présentement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en train de penser à créer le contenu pour ces gens-là. On est encore en train de penser « Ah, faudrait que je rentre un show à TV5, faudrait que je rentre un show à Radio-Canada. Je vais écrire un show d'une heure en pensant à ces formats-là pour la télé. » Puis moi, je pense qu'il y a une opportunité de créer du contenu pour d'autres clients que juste des diffuseurs traditionnels.
Et toi aussi, Xavier, tu lances une sorte d'entreprise, ou en tout cas un nouveau média.
Ça s'appelle Grand Public. Okay. On avait envie un peu d'expérimenter sur le terrain de la participation citoyenne et de trouver un terrain entre les médias et les communautés. Donc, vraiment, comment on peut revenir un peu à la base puis travailler vraiment le lien très fort entre moyens de communication, ce qui est un peu le média, et les gens, et ce qui sont un peu leurs préoccupations du moment. En gros, pour résumer, c'est une espèce de magazine qui a deux numéros par année, mais sans support, sans papier. Donc, il va être déterminé à chaque fois selon un projet. On s'intéresse beaucoup à la résolution de problèmes sociaux, donc ça va être ça notre base. Donc, on se dit, comment on peut régler tel problème ensemble, trouver un bon procédé participatif, récolter la participation des gens et d'en faire un résultat qui prendrait la forme de ce que ça pourrait être le meilleur support. Donc, ça peut être un petit guide papier, ça peut être un site web, ça peut être une installation dans la rue, ça peut être... Donc, on éclate le concept complètement de média et le média devient un peu alimenté par ce que les gens ont à nous dire. Notre premier projet, pour vous donner un exemple, notre thème, c'est l'hiver. Puis on se disait, c'est quoi le problème avec l'hiver? Donc, on a brainstormé.
C'est
dans les pistes qu'on avait pour explorer l'hiver, on se disait, comme premier projet, il y a l'axe déplacement. Les déplacements sont difficiles l'hiver. Il y a l'axe température. On a pensé à toutes sortes d'affaires, comme des installations, des abribus qui seraient chauffantes. On a pensé à des... calculer l'éolien, donc le facteur éolien en ville qui permet de, sur une carte, par exemple, d'identifier avec l'aide des gens quels sont les coins les plus froids de la ville et quels sont les îlots de chaleur également qui sont un peu dans l'actualité ces temps-ci pour aller... Quel serait, par exemple, sur une carte géographique, le chemin le plus chaud que tu pourrais faire à travers la ville, ce genre d'approche-là. Puis on s'est intéressé plutôt à l'isolement. Puis on s'est dit, et à l'imaginaire de l'hiver, on dit, OK, notre problème, ça va être l'hiver a mauvaise presse, l'hiver, la difficulté à percer dans l'imaginaire québécois, parce qu'on est toujours en train de taper dessus, parce qu'il y a plein de contraintes de l'hiver, tandis que on est, d'un autre côté, on est bien content d'avoir du temps pour soi pendant l'hiver. On a du temps pour se concentrer sur un livre, on a le temps de lire, on a le temps de voir des amis. Oui, justement, le fait de revenir un peu dans la maison puis de vivre plus dans chez soi permet d'ouvrir d'autres terrains. Donc nous, on va s'attaquer à ça. Comment ça se fait que l'hiver est à mauvaise presse? Puis on va proposer un procédé participatif qui va te dire, OK, ben dans les deux dernières semaines de mars, on va essayer de prouver qu'il y a des choses qui se passent chez les gens dans l'univers créatif. Donc, on va essayer de demander aux gens, qu'est-ce que vous avez réalisé cet hiver? Puis on va dresser un bilan créatif de l'hiver québécois. Donc, à travers ce bilan créatif...
Des bonhommes de neige, là, quoi.
Donc, ça peut être... tout selon les gens sont fiers d'avoir réalisé... Okay.
Regardez beaucoup de séries sur Netflix.
Oui, c'est voilà. Ça.
Donc, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être j'ai écrit un livre, ça peut être j'ai écrit un tweet qui était... J'ai été retweeté par Stéphane Baillargeon. Oh. Ça peut être tout ça.
Bon, j'enchaîne journaliste, alors on est avec toi. Parce que oui. On vient d'en parler un peu, des méthodes traditionnelles. Je reviens avec cette idée. Toi, tu te dis que tu étais old school. Toi, tu travailles à l'ancienne. Est-ce que tu...
Bon, je pense que je me suis auto-caricaturée.
Donc, c'est moi le vieux ici, mais tu t'es défini comme vieille, mais tu assumes un peu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme travail à l'ancienne cette année?
Ben,
Noémie, merci.
Je peux pas te le dire. Non. Ben, écoute... Je vais continuer ce que je fais depuis quelques années à l'actualité et que je faisais à Québec Science avant aussi, c'est-à-dire le plus possible aller sur le terrain, le plus possible. Moi, en fait, ce qui me drive, ce qui me passionne, c'est... Je fais du long récit, je fais du long reportage, mais c'est pas tant la longueur, là. Moi, le terme « long form », je suis un petit peu allergique à ce terme-là parce que c'est...
Pourquoi? C'est ce que tu fais, pourtant?
Bien, c'est-à-dire que c'est pas... Je fais ça, entre autres, je ne fais pas que ça, puis c'est pas l'objectif principal n'est pas de faire long.
De faire 25 feuillets, non?
Non, on aime ça. On aime ça avoir l'opportunité de faire 25 feuillets ou 50, ou je n'ai déjà fait 70, là. Mais il faut que le sujet le demande. Donc, ce qui me drive, c'est pas de faire long, c'est de faire profond. C'est de faire intime. C'est de faire proche, creux. Mais ça peut se faire en 4 feuillets comme ça peut se faire en 70. Mm-hmm. Je peux te donner un exemple. L'année dernière, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je suis allée passer une journée dans une école secondaire. Évidemment, forte représentation de différentes cultures et forte représentation musulmane.
Ici ou à Paris? Ici?
Non, ici. D'accord. Ici. D'accord. Puis l'idée, c'était de voir comment on parle de ces événements-là dans une école secondaire où il y a des gens qui viennent de partout, qui ont de différentes confessions religieuses. Donc, je suis allée, entre autres, dans un cours d'éthique, éthique et culture religieuse, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'était passionnant. C'était passionnant de voir cet enseignant-là stimuler la discussion avec ses élèves. Enfin, tout ça pour faire une histoire courte, ça s'est raconté en 2 pages là, dans l'actualité. Mais moi, c'est le genre de choses qui me... c'est le genre de choses qui me passionnent puis dont je trouve qu'on a besoin, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un énième commentaire, une énième analyse, vas-y donc voir, puis raconte, puis observe, puis c'est le genre de choses que je trouve que qui peut nous éclairer. Je veux dire, c'est pas un concours, là, mais je veux dire, c'est le genre de choses qui peut nous éclairer infiniment ou énormément sur une situation, autant ou sinon plus que, qu'une analyse. Donc, le terme « long form », c'est comme si l'objectif, c'était de faire long. D'accord. C'est pas ça, l'objectif. Pour moi, c'est d'entrer dans des univers, avoir accès aux coulisses de la création de quelque chose ou à des gens de pouvoir, les regarder aller, m'infiltrer comme une toute petite souris ou comme un fly on the wall, puis après ça, raconter ça de la manière la plus intéressante possible pour que tu veuilles pas me lâcher, que tu veuilles pas abandonner ta lecture, que ce soit 4 feuillets ou 25.
Pour terminer, Urbania souhaite assumer son rôle de dénicheur de tendance. Voici donc ce que nos nommés auront à l'œil cette année.
Mais qu'est-ce que vous allez surveiller, là, ou qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment-là et que vous recommanderiez là, en 2016 comme incontournable. Vous, vous avez mentionné Peach, donc ça va être ça?
Oui, ben oui. Envoyez-vous des gâteaux. Okay, si vous comprenez Peach, expliquez-le-moi.
OK. Bon, je ne vais pas vous piéger avec ça, là, mais s'il y en a d'autres qui ont des idées ou des...
Ben, ce que je vais continuer de suivre, il y a plein de plateformes de journalisme narratif sur le web qui ont vu le jour. Il y a une véritable explosion. Est-ce que... Puis évidemment, les modèles d'affaires sont à inventer. Puis des fois, on a l'impression que c'est... les journalistes se partent une plateforme parce qu'ils ont le goût de faire du long puis ils ne trouvent pas où publier.
Tu vises Xavier, là, quand tu dis ça?
Non. Okay. Non, mais tu sais, des trucs comme... dans les dernières années, il y a une explosion de ce genre de plateformes, les Byliner, les Atavis, les ci, les ça. Puis finalement, on se rend compte que, bon... C'est pas tout le monde qui survit bien. La qualité est super variable. Mm-hmm. Moi, je vais vraiment être intéressée à voir, justement, est-ce qu'ils sont capables de survivre puis vraiment de produire de la très, très grande qualité. Moi, je suis une grande fan de Matter. Je trouve que c'en est un qui fait du long reportage narratif terrain, pas seulement des témoignages à la première personne que tu fais de ton salon, là, ce qui a sa valeur aussi. Mais j'ai hâte de voir si ça peut vraiment survivre puis créer des débouchés pour ce genre de journalisme-là.
Olivier Agabi.
Moi, ce qui me fascine, ça va être de voir la réplique des grands studios puis des grandes corporations à Netflix. On risque de voir, je pense, une alliance, puis même, les plus grands ennemis vont devenir les meilleurs amis peut-être, puis même ici au Québec, on n'a pas touché à ce point-là, mais pour moi, le fait que même entre nous, TVA, contre Radio-Can, contre V, on essaie encore de se battre entre nous pour aller chercher des gens, alors que le conflit est mondial, je pense que ça tend vers beaucoup plus d'alliances, des gens qui vont se mettre ensemble pour unir leurs forces pour pouvoir aller contrer les...
Il y a cette idée-là qui est dans l'air, là, d'une plateforme québécoise à la Netflix. Là, est-ce que ce serait...
Moi, personnellement, ce que j'aimerais voir, ça serait que le CRTC abolit complètement les ondes hertziennes puis les câbles, puis que ça soit une plateforme, tu sais, OTT, là, où que tu as tous les contenus de Radio-Can, tous les contenus de TVA, tous les contenus de V, puis Évasion, whatever, puis après ça, ça fonctionne par un système de, je sais pas, je connais pas le système ou l'algorithme qui est à identifier pour savoir qui fait plus de revenus là-dedans.
De redevance, en quelque sorte.
Mais une manière, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de l'argent qui se fasse là. Mais pour moi, qu'on soit encore en compétition à savoir qui va écouter mon émission à telle heure le lundi, puis que je te compte le programme avec ça, puis qu'on finit par tuer des super bonnes émissions. On finit par tuer nos émissions parce qu'on est encore dans un modèle de programmation d'heures d'écoute. Je trouve ça...
Vous les mettre en compétition entre elles, hein, aussi.
Mais sur une plateforme, puis on laisse aux gens la liberté d'écouter ce qu'ils veulent. Puis après ça, sais-tu quoi? Peut-être qu'il y aura plus de contenu qui va se voir.
Comme dit Olivier, moi, je suis très...
Xavier Cranstrom-Richard.
Très fasciné pour ce qui s'en vient côté... collaboration, côté transparence, puis partenariat. Je trouve qu'on a besoin de ça, puis on a besoin de se serrer les coudes entre nous-mêmes, dans notre propre entreprise, qui est déjà pas une mince tâche. Mm-hmm. Puis entre médias aussi, je pense. Puis plus que jamais, on parle le même langage aussi, avec le numérique, avec la compétition qui vient de tout part, tout côté. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je vais suivre aussi une application qui s'appelle Quartz, que je trouve fantastique. C'est l'application de Quartz, le site web de The Atlantic. C'est un bijou d'intégration d'expérience utilisateur de nouvelles. Donc, on est dans un fil texto. Et tous les jours, il y a à peu près 5 à 10 nouvelles qui nous est envoyées selon où on en est dans notre journée. Puis, on décide de développer ou non, mais tout ça dans un design de messagerie de texto. J'ai l'impression que j'ai passé plus de temps dans cette application-là que toutes les autres applications de nouvelles réunies en 2016. Puis elle vient juste de sortir. Puis je la trouve vraiment fascinante. Je trouve qu'ils ont exactement compris comment moi, j'ai envie de suivre mes nouvelles, c'est-à-dire pas en mode portail, où j'ai toute l'information servie à tout le monde en tout temps. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une nouvelle qui me touche moi. Quand tu as fini 5 nouvelles, il en reste plus, ils disent reviens plus tard.
Également, comme Olivier dit, j'aime mon rêve, ce serait vraiment que je puisse consommer tout mon contenu sur la même plateforme. Tu sais, on parlait de survie un peu du contenu québécois, puis je trouve ça dommage que pour voir du contenu québécois, j'étais obligée de m'abonner à tout point TV Extra, à la plateforme de Lico. Je veux pas payer tout le monde, puis aller sur toutes ces différentes plateformes-là. Je veux payer une fois, puis que tout mon contenu soit là, et pourquoi pas mon contenu québécois avec aussi mon contenu américain ou mondial. Fait que moi, c'est ce que j'aimerais voir. Je sais pas si c'est possible, mais c'est que, tu sais, si on met pas le contenu québécois là où les gens consomment leur contenu, comment est-ce, mm-hmm. que, comment est-ce que ce contenu, cette culture québécoise-là peut survivre si on ne peut même pas la consommer de façon qui est facile puis pratique. Donc, voilà.
Parfait. Bien, merci beaucoup à tous.
Merci. Merci.
Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé 4 autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca/rencontre.
Cet épisode a été enregistré chez Studio Plasma.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.